Ah, vous écoutez Radio G sur le 101.5 FM et c'est maintenant l'heure de votre émission sordide mais fictive préférée, celle qui vous pousse à vous confronter au crime avec délice. C'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. Et maintenant, générique maestro. Calibre 58, c'est aujourd'hui Luc Douin et moi, les Sherlock Holmes et Watson du PAF Angevin. Rien que ça. Au sommaire de cette émission, une interview de Jimmy Gallier des éditions Gigal, connu pour cette collection Gigal Polar, dont on a déjà pu dire tout le bien qu'on pense et qui est contrainte mélancoliquement de tirer sa révérence. L'occasion également de parler d'un petit dernier, Le fric ou l'éternité de Paul Chazaine, un court roman dans lequel on suivra les péripéties criminelles et spirituelles d'un certain Socrate. Pour son nouveau périple ou voyage en exergie, Luc nous emmène sur un ring de boxe avec « Balancé dans les cordes » de Jérémy Guez. Tout ça remonte à quelque temps chez Latengo, mais on verra si Luc s'est pris quelques uppercuts. Enfin, nous débattrons autour d'un giallo, vous savez, ces films noirs italiens qui dénoncent la violence sociétale à coups de violence. Un citoyen se rebelle, Denzo J. Castellari, c'est chez Artus Film et avec le grandissime Franco Nero, qui est tout sauf un loup. On en recause.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Where is Rick?
I don't know. I ain't seen him all night.
When will he be back?
Not tonight no more. He ain't coming. He went home.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. He goes up there all the time.
You used to be a much better liar, Sam.
Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Little things apply as time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Sam, I thought I told you never to play.
I got my job, baby, I've got style, and I'm so tired, I'm so scared.
vous aurez peut-être reconnu un extrait de Casablanca, film noir culte avec, excusez du peu, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman et l'inénarrable Paul Henreid. Il était suivi d'un morceau des Dogs, Poison Town. Et là, on se dit qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux sonores et que s'il avait fallu en trouver un, c'était du côté de Poisonville, la ville corrompue de Dungeon dans The Red Harvest. Mais là, si le rapport ne vous est pas évident, c'est que vous n'avez pas encore lu Le Fric ou l'Éternité de Paul Chazen chez Gigal. Ce premier roman qui a pour protagoniste principal un homme sans le sou qui se fait appeler Socrate, fourmille de références culturelles, donc musicales et cinématographiques. Casablanca est abordé. Quant aux Dogs, le morceau figure en dernière position d'une playlist danse en fin d'ouvrage. Mais cette même playlist, on a pu aussi la déceler dans son intégralité tout au long du roman. Le roman, justement. Une écriture très sèche à aller s'inspirer du côté de Jean-Patrick Manchette. D'ailleurs, la référence s'impose quand on cause de tueur à gages. La fameuse position du tireur couché est bien moins clinique dans ce premier roman qui nous émeut aussi en raison de cette écriture naïve et pourtant intéressante et pour l'incohérence d'un homme qui devient dans un bar tueur à gages et qui apprend bien trop vite à manier différents moyens de liquider son prochain, tout ça sans trop s'en émouvoir. Mais le roman ne s'arrête pas là. C'est aussi une histoire d'amitié, de résilience, sur des thématiques qui vont voir se confronter la pègre et le spirituel. Tout ça en 120 pages d'une intrigue linéaire et crépusculaire. Une histoire marquante donc à plus d'un titre. On en cause non pas avec l'auteur qui est à l'autre bout du monde, mais avec son éditeur Jimmy Gallier, des éditions marseillaises Gigal. Et puis on va aussi causer de plein d'autres choses. Jimmy Gallier, bonjour.
Bonjour Julien.
Comment en arrive-t-on à devenir éditeur de romans policiers ?
Un petit peu par hasard, j'étais déjà éditeur avant dans le milieu de la musique et j'avais envie de, ça faisait une quinzaine d'années que je faisais ça, j'avais envie d'un peu changer, de pas toujours faire la même chose et donc par hasard j'ai reçu un manuscrit qui m'a plu, le premier, qui m'a donné envie et puis 3-4 mois plus tard c'était parti et c'était parti de manière plutôt très forte d'ailleurs, qui fait que ça a été le début et de fil en aiguille, il y en a eu quelques centaines derrière. Voilà un petit peu l'idée de départ.
Alors, au milieu des années 1990, ça arrive sur la scène marseillaise un certain Jean-Claude Izot qui donne ses lettres de noblesse à la littérature policière marseillaise. Gigal, c'est à Marseille. Alors, Polar Marseillais d'abord ?
C'est compliqué parce que il n'y a pas vraiment eu d'école de polar marseillaise. Si on était à New York, on dirait pas qu'il y a une école de polar new-yorkaise. Il se fait que oui, il y a eu plusieurs auteurs de talent originaires de cette ville, Marseille, dont nous avons édité quelques beaux exemples comme Maurice Guirand, par exemple. Mais tout ça n'en fait pas une école. Ça. Il se fait que les hasards de la vie ont vu paraître ces romans à une époque où Marseille était, entre guillemets, un peu à la mode, l'arrivée du TGV, des choses comme ça. Et ce qui fait que les rédactions parisiennes, toujours à la recherche de sensations fortes, se sont entichées très très vite de ces romans, de certains de ces romans en tout cas, et ce qui nous a permis, nous, de démarrer la collection en tout cas.
Oui, alors moi je pensais en effet à Maurice Guirand, à Serge Scotto, à Gilles Del Papas, qui sont autant d'auteurs édités. Mais aussi, il y a eu toute une salve d'auteurs qui font que Gigal est plus un éditeur de polar francophone méditerranéen. C'est quoi ton avis là-dessus ?
Mais c'était une envie de départ. J'avais très envie de faire le tour de la Méditerranée en polar. J'ai commencé, mais je n'en ai pas arrivé à aller partout parce qu'il y a des tas d'endroits autour de la Méditerranée qui sont pas forcément en pleine démocratie. Et les polars dans les pays qui ne sont pas démocrates, ça n'existe quasiment pas. Et donc, ce qui m'a permis quand même par extension de chercher des polars un petit peu partout. Donc, il y a eu en Algérie, avec Adad Mehdi, il y a eu au Maroc, il y a eu. Et puis après, par extension, j'ai été contacté par Janine Alice au Ciami, par exemple, qui était très très loin de la Méditerranée, puisqu'il est du Gabon, mais ça m'a permis de, encore une fois, un peu par hasard, de proposer des œuvres très différentes de ce dont on avait l'habitude de, jusqu'à maintenant, quoi. Et il y a eu le Gabon, il y a eu le Bénin, et j'ai pas terminé le tour de la Méditerranée, j'aurais bien aimé. J'en ai fait quelques pays, la Grèce, des choses comme ça, mais voilà.
Oui, justement, la Grèce, tu peux nous en parler un peu plus longuement ?
Nous avons publié Sofia Mavroudis, qui a écrit une série avec l'inspecteur Stavros. L'intérêt de ces bouquins, c'est que c'est une lecture de la Grèce des 15 dernières années, avec tous les problèmes qu'on a pu voir, les problèmes économiques, problèmes de gouvernance, etc., etc. Et dans les romans de Sofia, toute cette Grèce ressort à chaque page, à chaque ligne, et c'est au-delà de contexte polar, c'est la vie au sens littéral de tous les jours qui ressort, ça va de son héros policier Stavros, qui est un grand amateur de cuisine, de tavli, vin grec, etc., etc. Et tout se mélange en fond des romans qui ont été particulièrement remarqués, qui viennent d'être traduits en Italie d'ailleurs récemment, et qui ont bien fonctionné, quoi. Et c'est devenu une voie de la Grèce contemporaine, on va dire.
Alors, s'il y a un auteur qui devait symboliser Gigal, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que ça pourrait être Maurice Guirand, parce que j'ai cette sensation qu'il est là depuis le début et que toute sa bibliographie, c'est Gigal.
Tout à fait. Il a publié quelques petites nouvelles ici ou là, mais c'est en effet c'est le second auteur qu'on a signé. Il est là depuis l'année 2000. Je l'ai rencontré à ce moment-là. Et on a publié ensemble 33 ou 34 bouquins, je ne me souviens plus. Et c'est, oui, bien sûr, c'est un symbole évident. Et puis j'ai toujours été fan de son histoire. Boris, il a une manière de raconter pour la plupart de ses bouquins. Il a une manière de mêler tout ça avec une faconde, une gouaille intéressante. Il a une manière de mêler l'histoire, la grande et la petite, les turpitudes, les hommes. Il y a tout un mélange dans ses écrits. Moi, je suis fan depuis le début, en fait, même si tout n'est pas forcément parfait, bien sûr, mais j'ai toujours été très scotché par sa manière de nous emmener dans ses romans et de nous apprendre plein de choses, de nous sortir des histoires intimes, des personnages. Il a un grand talent pour faire ça. Et c'est 33 bouquins, je crois. C'est pas mal, en l'espace de 20 ans.
Oui, alors c'est pas mal. Est-ce que tu as conscience que la plupart de ces romans que tu as édités sont des romans qui auraient pu l'être dans des collections de poches mythiques, genre Spécial Police ou la série Noire ? Et n'est-ce pas un frein ou un problème d'époque ?
Tout à fait, mais c'est encore une fois, c'est circonstanciel, on va dire. Il y a même une très grosse différence entre le moment où nous avons démarré Gigal et les mois récents. À une époque comme tu parles, série noire et autres, en effet, c'était le seul format quasiment qui existait et qui vendait évidemment des milliers. Ensuite, quand tu vends pas des milliers de bouquins, tu es obligé d'avoir des grands formats à côté pour rentabiliser un peu ton affaire, sinon ça ne va pas très bien marcher très loin, même si les poches se vendent, mais pas forcément suffisamment. Ce qui fait qu'avoir les deux formats nous permettait à la fois de faire connaître l'auteur sur un grand format et de relancer l'histoire avec un format poche quelques mois ou années plus tard. Donc ça peut nous permettre de jouer un petit peu sur tous les tableaux, mais évidemment à la mesure qui était la nôtre d'éditeur indépendant, pas forcément comme une série noire ou Spécial Police, choses comme ça, qui, eux, grosse machine, étaient distribués partout, à l'époque, dans toutes les gares, etc. Pas que pas avec les gares, d'ailleurs. Et se permettaient d'avoir des ventes importantes, ce qui n'est plus le cas, d'ailleurs, même pour eux aujourd'hui.
Thomas Bauduré, que je connais bien et qui a beaucoup lu certains romans de Gigalle, parle toujours de cette écriture sèche, de ces romans noirs à papa, en fait, à l'ancienne, et de cette intrigue qui est toujours, toujours très bien tenue. C'est ça l'essentiel pour toi, pour un roman? C'est un roman, c'est une intrigue qui fonctionne bien?
C'est dès le départ, oui, forcément, on cherche à lire du polar ou du roman noir, et donc forcément il y a une intrigue qui doit fonctionner, mais c'est pas la seule chose essentielle. Il faut aussi un personnage, par exemple, ou plusieurs, mais en tout cas quelque chose qui accroche le lecteur. Ça peut être certains bouquins ou certains romans. Ça va être davantage un rythme, un style. Donc en fait, chaque auteur a des particularités, mais on peut pas nier l'intrigue. On est dans le polar, encore une fois, c'est une constituante essentielle, même si c'est pas la seule. Le style peut être un autre argument. Je pense à certains bouquins comme Jacques Mablon, par exemple, qui sont des gens où l'intrigue se tient, bien sûr, mais on est aussi emmené par des individus, des personnages un peu fantasques, extraordinaires, et c'est aussi ça qui peut donner l'envie. Il y a plusieurs points d'entrée, en fait.
Alors, si on prend, par exemple, Le Fric ou l'Éternité, qui est un des derniers romans parus de Paul Chazen, un auteur que je ne connaissais pas et qui vient d'arriver au catalogue, on suit la trajectoire peu ordinaire d'un homme devenu tueur à gages un peu par hasard pour la mafia. Écriture sèche, intrigue très courte aux influences qui oscillent entre le polar à l'ancienne justement et le néo-polar. Mais quelque part, ça paraît aussi un peu désuet, à la fois avec un style très simple et une intrigue très courte. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce roman ?
J'ai aimé plusieurs choses, entre autres son personnage principal, Socrate, qui, un petit peu baladé par hasard, se balade et rebondit dans la vie, en passant de pas grand-chose au départ à éventuellement tueur à gages sans beaucoup ni de conviction, ni de morale, pour rebondir plus tard encore par cette nécessité, cette envie de bouleverser cette machine infernale et d'y arriver éventuellement. Et j'ai trouvé ça tellement étrange que c'est pas fréquent, ce genre de personnage qui passe par différentes étapes très contradictoires, et ça se termine presque en lui déclasse, quoi, entre guillemets. C'est pas révolution dans la rue, mais c'est un peu ça quand même. La fin de son bouquin remet en cause tout ce qui l'a fait grandir les dernières années, quoi. Et ça m'a touché.
Alors, Gigalle met malheureusement la clé sous la porte après un quart de siècle de publication. Question simple, tu t'attendais à ce que l'aventure ait duré aussi longtemps ?
Pas du tout, bien sûr que non. On a démarré ça jusqu'à un quart de siècle avant, on a démarré ça il y a 33 ans, et non, c'est parti comme ça par envie de se lancer dans une entreprise individuelle, et un petit peu, encore une fois, par hasard, décidément, je cite beaucoup ce mot-là depuis tout à l'heure. Et c'est passé par Mons et par Vaux, par beaucoup de hauts et de bas, classiquement, comme quand on a une entreprise. Mais quel pied d'avoir duré aussi longtemps, même si, en effet, la difficulté se sont accumulées récemment. Mais c'était un grand plaisir de découvrir tout ça, tout ce monde, de tous ces auteurs, toutes ces langues. C'est un grand plaisir. C'est, hormis le travail, qui bien sûr était là, mais il y a eu avant tout du plaisir. Ça, c'est un petit peu comme ça que je vois les 25 dernières années.
On gardera en mémoire cette notion de plaisir. Alors, comme tu l'as dit, tu as été éditeur aussi dans le domaine de la musique. Donc, tu devrais pouvoir réussir à répondre à cette dernière et sempiternelle question. On écoute quoi comme musique maintenant ?
Alors, on écoute Like a Weekend de Neil Young, en version live, probablement. Neil Young, c'est un auteur fétiche pour moi, un musicien que j'aime toujours autant, bizarrement, depuis bien longtemps. J'ai eu l'occasion de le voir avec ses acolytes de l'époque il y a très 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 longtemps à Wembley, au stade de, à côté de Londres. J'ai écouté encore il y a deux jours son dernier album qui vient de sortir alors qu'il a 77 ans je crois. Et c'est toujours aussi formidable et il a des guitares qui arrachent tellement qu'on ne peut pas y être insensible.
Eh bien, Jimmy, c'est ce qu'on va écouter dans la foulée de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi, si ce n'est de rebondir d'une manière ou d'une autre, en ayant une pensée quand même pour tous ces auteurs qui vont devenir bêtement orphelins à leurs âges, ils s'y attendaient plus.
C'était nos premières préoccupations. C'est vrai que ça nous a beaucoup touchés pour eux parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, comme nous non plus d'ailleurs. Et ils avaient l'impression que ça pouvait durer encore longtemps. Il y a encore un autre de nos auteurs qui nous disait « Moi, j'aimerais bien faire une carrière comme Maurice Guérin, 30 bouquins, ça me va, et toi ?» et tout. Hein. Puisque bon, on essayait de s'occuper d'eux intelligemment. Et ben, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et quant à nous, ben, comme tu le disais, rebondir d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas encore laquelle, pour l'instant on est encore le nez sur le guidon, on va dire, on vient juste de lâcher le guidon, donc on va laisser un petit peu passer les choses et puis rebondir. Oui, bien sûr, on a plusieurs vies dans la vie, on va essayer de continuer comme ça.
Bon, eh bien, on vous souhaite longue vie à tous. À bientôt, Jimmy.
Merci, Julien, à bientôt.
Just a dream, and you could have been anywhere. safer where the feelings stay.
D'écouter une version longue en live de Like a Hurricane de Neil Young que l'on retrouvera également en fin d'émission. Un morceau de Neil Young, on ne retrouvera pas Neil Young lui-même. Et puis aussi, vous avez pu entendre un court extrait du film de Robert Wise, Nous avons gagné ce soir, avec Robert Ryan, en boxeur qui refuse de se coucher et qui va avoir affaire avec la mafia. Et oui, la boxe est le sport corruptible par excellence, et ce n'est pas Luc qui nous dira le contraire. Sport corruptible, mais noble, et sport qui a fasciné à la fois la littérature et le cinéma. Rocky sort de ce corps. Rappelez-vous notre interview de Robert Elinicou. Vous écoutez Calibre 58 sur Radio G 101.5 FM. C'est au tour de notre maintenant habituel voyage en exergie de Luc, en compagnie de Jérémy Guèze, qui nous entraîne sur un de ces rings de boxe où il est important d'avoir de l'allonge et un bon jeu de jambes. Mais chut, comptons les coups.
Tu sais, Julien, il y a des voyages qui laissent des empreintes fortes dans la mémoire. Mes voyages en Exergue me réservent toujours des surprises, pas toujours excellentes, il faut bien le dire. Mais pour celui-ci, ça a cogné très fort. J'en ai même frôlé le chaos à la fin du combat. Et pourtant, je vais te parler d'un tout petit roman noir de tout juste 190 pages. Il s'intitule « Balancé dans les cordes », il est de Jérémy Guèze et il a été publié aux éditions Latengo en 2013. Comme il se doit, je commence par l'Exergue. Au bout d'un moment, ça devient si moche qu'on a envie de tout arrêter. On se dit que ça ne vaut pas le coup d'essayer de se bagarrer. On a le monde entier contre soi, alors plus tôt on abandonnera, mieux ça vaudra. C'est de David Goudis et c'est extrait de Retour à la vie. L'argument de balancer dans les cordes, c'est la boxe. Et Jérémy Guèze, il joue carte sur table, il joue franc jeu. Tony est un jeune boxeur. Il est venu à ce sport grâce à son oncle qui, constatant son incapacité à se défendre à l'école, l'a conduit dans la salle de boxe d'un de ses amis. L'oncle de Tony tient un garage où il l'y fait travailler. Dans ce garage, Tony côtoie un autre ouvrier, Bachir. Tony est un boxeur inné. Il vit dans la banlieue nord de Paris. Il est sans histoire et évite de fréquenter les voyous des cités. Il a un ami de toujours, Moussa, un petit trafiquant. Comme sa réputation de boxeur est vite connue, Miguel, un mafieux, l'approche sans doute pour en faire son poulain dans des combats truqués. La mère de Tony est toxicomane et se prostitue. Un jour, un de ses clients la bat violemment. Tony met en fuite son agresseur, mais le voyou revient et tabasse une nouvelle fois sa mère, qui va être hospitalisée. Suite à cette seconde agression, Tony va voir Miguel, le mafieux, pour qu'il élimine l'agresseur. Mais c'est mettre le doigt dans l'engrenage. Tony est piégé, il va devoir rembourser sa dette. Voilà, le cadre est posé, on est dans la banlieue, les cités, la misère, la drogue. Et de cet environnement tant de fois traité et tant de fois maltraité, Jérémy Guèze s'en empare. Il n'en fait pas le lieu d'un mélodrame tartiné de pathos misérabiliste. Tony est de la cité et il n'en veut pas à la terre entière. Il n'a pas de revanche à prendre. Il a découvert la magie, pour ne pas dire le mystère de la boxe par inadvertance, et il n'a qu'une seule envie, réussir dans ce sport. Sa mère est une prostituée, une toxicomane, c'est comme ça. Son ami Moussa Dil, oui mais c'est l'ami en qui il a toute confiance. Et en traitant son histoire sous cet angle, Jérémy Guèze se laisse tout l'espace pour écrire un roman noir, un vrai. La salle de boxe, on y est, on en sent l'odeur. La cage d'escalier de la tour où habite Tony, on la connaît. Les tacs sur les murs nous explosent les rétines. Les bandes de jeunes qui tiennent les murs au pied des bâtiments, on les voit et on entend leurs ricanements. Tony est un personnage étrange. À l'extérieur, il ne laisse rien voir, mais à l'intérieur, c'est un maelstrom d'émotions. Tony va voir progressivement le monde s'écrouler autour de lui. Seule l'amitié indéfectible qu'il a pour Moussa trouve grâce à ses yeux, même s'il ne cautionne pas l'activité risquée de Moussa. Alors quand Tony prend la décision de rembourser la dette qu'il a contractée auprès de Miguel, c'est à sa manière qu'il va le faire, la manière des grands. Il y a du William Burnett chez Jérémy Guèze. À tout le moins, on y trouve la trace de tous ces maîtres du roman noir américain. La priorité, c'est la crédibilité et l'efficacité. Que sait-on réellement de la banlieue et des conditions de vie des habitants qui y vivent ? Rien. Seulement des images véhiculées par les médias, juste des fantasmes. La banlieue écrite par Jérémy Guèze existe-t-elle ? Sans doute pas. Peu importe, il nous la fait croire vraie, on y est. De même, la boxe n'est plus l'activité de brutes épaisses aux oreilles en feuilles de chou. Sous la plume de Jérémy Guèze, elle redevient le noble art. Quant à la vengeance de Tony, elle est totalement improbable. La violence des bandes de banlieue est réelle, les comptes s'y règlent à la Kalachnikov. Mais cette vengeance, on la vit en apnée et on est en admiration devant ce jeune garçon qui marche au sacrifice, auréolé de gloire. Tu te souviens de l'Exergue, Julien, au bout d'un moment, ça devient si moche qu'on a envie de tout arrêter. On se dit que ça ne vaut pas le coup d'essayer de se bagarrer. On a le monde entier contre soi. Alors plus tôt on abandonnera, mieux ça vaudra. Cette petite musique désespérante, Jérémy Guez la joue. Il va au bout de la partition jusqu'à rendre le désespoir de Tony lumineux. Le roman s'appelle « Balancer dans les cordes ». Il est de Jérémy Guez. Il est publié aux éditions La Tango et il est à lire de toute urgence.
Merci à toi, Luc, pour ce nouveau voyage en exergie avec Jérémy Guez, le gars qui te file des uppercuts rien qu'en écrivant. C'est fou, non? Mais si vous écoutez bien cette petite musique qui monte, vous comprendrez que c'est maintenant le moment de passer à la partie débat DVD de l'émission. Cette semaine, un giallo du début des années 1970 avec Franco Nero dans la peau d'un citoyen lambda confronté à la violence dans une banque et qui se retrouve humilié, initiant quelque peu le Justice Revenge, genre qui fait à la même époque fureur aux États-Unis avec des Charles Bronson et autres Clint Eastwood. Luc nous en dresse le pitch et on écoute aussi un extrait.
Carlo Antonelli, Franco Nero, est un petit chef d'entreprise. Un jour où il dépose de l'argent à la banque, une bande de gangsters surgit pour faire un cambriolage. Ils sont trois, ils sont violents, ils prennent en otage Carlo Antonelli pour pouvoir s'enfuir. Ils le tabassent et l'abandonnent blessé. Carlo Antonelli se sent humilié. Il va porter plainte, mais la police ne l'écoute pas. Elle le soupçonne presque de faire partie de la bande. Surtout, elle ne fait rien, submergée par le nombre de vols et d'agressions. Alors, Carlo Antonelli, bon citoyen, va décider de se venger, seul contre tous, pour retrouver sa dignité.
Non le dimenticherò mai quelle facce. Visto che non ne ha riconosciuto nessuno tra gli schedati, devono essere dei dilettanti. Erano professionisti. Facevano finta di essere nervosi per spaventarci.
Ah, ho capito. Lei è un altro di quelli che vogliono insegnarci il mestiere.
Ma io non voglio insegnarvi proprio niente. Io voglio solamente che voi li prendiate quei criminali. E invece ho l'impressione che voi state qui ad interrogarmi come se fossi io il delinquente.
Vuole collaborare, sì o no? Ci sono un sacco di rapini ogni giorno, non possiamo mica mettere un poliziotto in ogni angolo. La gente che spara, che ammazza, non bisogna mai provocarli. Anche i cassieri delle banche hanno l'ordine di assecondare i rapinatori. Lei è stato imprudente a ribellarsi.
Alors Luc, aujourd'hui nous allons débattre autour d'un giallo, ces films noirs à l'italienne qui mélangent politique et la violence. On pense qu'il n'y a pas trop d'érotisme ni de fantastique dans celui-là, mais dans beaucoup de giallo on en retrouve. Là, en revanche, dès le début, pour la violence, on est servi, non ?
Ah ben oui, oui, on est vraiment même très bien servi. J'allais faire une drôle d'intervention. Oui, c'est de la vraie violence, quoi, finalement. Hein, ça cogne, ça, les voitures roulent vite, ça se poursuit, y a du sang. Donc oui, oui, c'est une vraie violence, une vraie pure violence, ouais, tout à fait.
Et alors, parce qu'on va être obligé de faire des parallèles avec certains films, il y a un élément qui est frappant sur cette violence-là. Elle est à la fois beaucoup plus crue et réelle que dans Un justicier dans la ville avec Charles Bronson, où elle est là, mais elle fait un peu typée, archétypée. Là, la violence, elle est omniprésente et elle touche tout le monde.
Ben, moi, je pense que ça vient entre autres d'une chose, c'est que effectivement, dans Un justicier dans la ville, puisqu'il faut parler de ça, parce qu'on est obligé de faire le rapprochement entre Franco Nero et Bronson grâce à la moustache, la violence à l'américaine, elle est effectivement assez peut-être stylisée ou américaine. Il me semble, moi, que pour dans ce film-là, on est face à un personnage, à un héros qui est moins égocentrique que Bronson, par exemple, pour le citer, et donc plus naturel, qui réagit plus naturellement, qui est plus... oui, c'est ça, plus naturel. Voilà, ça serait cette remarque. Et donc, ces réactions sont beaucoup plus spontanée, compréhensible par rapport à un film comme Un justicier dans la ville, où le déchaînement de Bronson reste malgré tout effectivement très épuré. Enfin, il me semble très influencé par le protestantisme américain.
Oui, et puis alors, il faut le dire, Charles Bronson, c'est un peu Walker, Texas Rangers, quoi, Chuck Norris. Dès qu'il rentre en action, il ne se trompe pas, il a les bons gestes, il a toujours la répartie, il a toujours le geste physique qui va. Alors que Franco Nero, dans ce film, bah, il commet plein d'erreurs.
Oui, tout à fait. Bah, il fait que ça, puisque il n'est pas. C'est un citoyen. C'est un citoyen normal. C'est un citoyen qui va se rebeller, mais c'est un citoyen normal, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas les codes des voyous, il ne connaît pas les codes de la police, il découvre tout, il fait son apprentissage de justicier, et donc nécessairement, il connaît les erreurs les plus... il commet les erreurs les plus stupides, bien évidemment. Et ce qui déclenche d'ailleurs toute l'affaire, c'est quand même ce... Il est, pendant le cambriolage, il est complètement ignoré par les voyous qui sont là, par les malfrats qui sont là. Se sachant ignoré, il se dit bah, « je vais récupérer mon fric », et puis il manque de peau. En voulant simplement récupérer son fric, il dégoupille la grenade qui va lui exploser à la figure.
Oui, et puis après, donc, on va suivre tout un parcours qui est empreint de naïveté. Et en même temps, on comprend très vite qu'il va agir et qu'il va aboutir, parce que c'est le principe du film. Il met en route une justice parallèle à la justice civique, juridique. Et malgré toutes ses erreurs, il est pugnace et il avance.
Effectivement, je pense que c'est ça qui en fait un véritable justicier. C'est que il a été tellement ridiculisé dans la voiture, il a été tabassé, son honneur d'homme a été complètement remis en cause. Il est quand même chef d'entreprise dans la vraie vie. Quand je parle de grenade qui est dégoupillée et qui lui explose à la figure, sa colère lui explose à la figure, et donc il va se mettre en route. Et personne ne peut l'arrêter, même son ami qui va essayer de le réfréner, il ne l'écoute pas, il dit non, moi je vais au bout du truc, quoi. Ces salopards, moi je les aurai. Quoi.
Oui, alors il faut dire aussi que c'est Franco Nero, c'est pas Charles Bronson, mais c'est Franco Nero. Et 8 ans avant d'être ce personnage de citoyen ordinaire, c'est quand même Django dans le film de Corbucci, quoi.
Bah oui, c'est Django, c'est les western spaghetti, et c'est son regard, ses yeux d'une étrange couleur. Alors je sais pas s'il en joue ou pas, ou si le réalisateur en joue ou pas, mais effectivement, il a un véritable charisme. Enfin, moi je trouve qu'il a plus de charisme que Bronson, si on devait les comparer. En termes d'humanité, on croit à sa colère. On croit à son cheminement, à son calvaire, et on n'a qu'une envie, c'est la rédemption. C'est qu'il se sauve, quoi.
Oui, alors pour apporter de l'eau à ton moulin, Franco Nero, il a quand même tourné avec Luis Buñuel, avec Fassbinder. Voilà, donc il a quand même aussi fait ce qu'on appelle du cinéma d'auteur. Et ça veut dire qu'il a aussi un panel à sa disposition qui est un peu plus large que celui de l'homme à l'harmonica. Dernier rapprochement aussi avec le film Un justicier dans la ville. Et on ne peut que le faire, alors que ces deux films sortent à un an d'intervalle, hein, il faut bien le dire. Donc ils portent un constat identique aux États-Unis et en Italie. La dernière scène du film, pour ne pas trop dire de choses, Franco Nero est dans un commissariat, il voit une scène, il nous regarde face caméra et il nous fait un clin d'œil. C'est exactement la même scène que Charles Bronson dans Un justicier dans la ville. C'est quand même assez surprenant, et ça veut dire surtout une chose, c'est que la police, elle a toujours autant les mains liées face à la violence.
Oui, je pense. Alors, moi, j'ai vraiment. On est obligé de faire le parallèle entre les deux films. Hein, c'est évident. Il n'y a pas d'eau. C'est tellement flagrant. Avec moi, une nette préférence pour celui-ci, hein, parce que je pense que la vision. Alors, le film est emprunt de cette période du cinéma italien qui était ce néo-réalisme qu'on voyait apparaître avec toute une flopée de réalisateurs qui ont égratigné la société italienne. Et je crois que là, avec sous des dehors de traitement américanisé, on a cette strate sociale dans le film qui est vraiment, à mon avis, ce qui en fait tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant une violence brutale, on est devant une violence qui est inscrite dans une société et qui essaye de... Alors, on est bien face à un justicier, quoi, qui essaye de redresser un peu les torts. Même la police, qui lui est fait... qui va influer tout à la fin sur Franco Nero, se trouve quand même transformée dans cette affaire-là.
Oui, alors, on parlera pas de la scène dans un grand hangar.
Ah, qui est extraordinaire.
Oui, et pour rebondir sur ce que tu disais, on peut aussi préférer ce film à Un justicier dans la ville pour la simple raison, c'est qu'il n'a pas eu 3 suites. Et ça, c'est appréciable. Dernière chose sur ce film, parce que on est obligé aussi de faire un parallèle avec un autre film, ce coup-ci d'Elio Petri, Un citoyen au-dessus de tout soupçon. C'est un film qui est tourné 4 ans avant celui-là, de mémoire. Et c'est surtout un film qui mettait en avant à la fois la violence de la société, la corruption de la police. Et la corruption de la police, c'est quand même quelque chose qui est un axe qui est au cœur du giallo des années 60-70.
Je pense qu'on est, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi, c'est qu'on est face effectivement à cette vision sociétale du cinéma italien, et je pense que dans ce domaine-là, effectivement, il y a effectivement cette strate qui enrichit beaucoup et qui légitime ce cinéma qui pourrait passer pour un cinéma à la petite semaine, pour un cinéma de série B, peut-être même de série Z d'ailleurs, mais tout d'un coup avec cet angle-là, il prend vraiment il prend vraiment du poids.
Oui, et puis alors Enzo G. Castellari pour celui-là, et puis Elio Petri pour l'autre, hein, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, sont des réalisateurs, à mon avis, engagés, et ils ont bien perçu la société et ce qu'elle était, et c'est peut-être ça la différence avec le cinéma hollywoodien qui essaye tant bien que mal, même s'il prend parti, de nous vendre du rêve, et donc on est plongé plus dans une fiction, dans le cas de Charles Bronson, que dans une réalité cru là avec Franco Nero. C'est pas ça en fait la différence, et qui fait qu'ils sont intemporels.
Oui, bien sûr. Moi je pense que si tu as raison, hein, sur ce regard là, sur cette approche là. Oui, moi je pense que c'est ce qui va donner effectivement cette crédibilité à travers le temps. Moi je me suis vraiment j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à voir ce film, hein, en oubliant complètement d'ailleurs qu'il a presque 50 ans.
Eh bien, on va s'arrêter sur ces derniers mots. Beaucoup de plaisir à voir ce film. C'est quand même tout le mal qu'on souhaite quand on regarde un film. J'ajouterais que le film sort en combo Blu-ray DVD chez Artus Film, une petite maison qui adore les films de genre. Et là, ça tombe vraiment bien. Voilà. Merci, Luc.
Écoute, à la prochaine émission.
Brève en série. Espionnage encore et toujours. La nouvelle collection Borderline au Cherche Midi réédite un titre déjà publié en 1969 du romancier Kingsley Amis, Colonel Sun, un hommage à James Bond et qui fait revivre le spectre de la guerre froide avec un complot mené par des Chinois visant à déstabiliser l'équilibre entre Américains et Russes en Méditerranée. Un roman étrangement d'actualité. Dans la rubrique Pastiche en série, Delphine Bilien-Chalençonnet propose avec Sherlock Holmes et les mystères de l'Anjou, chez Geste, une enquête victorienne qui nous plonge au début du XXe siècle avec tout un lot de rumeurs. Le roman, joliment illustré, est un bien beau livre avec ses illustrations, je l'ai dit, mais qui sont désuètes pour mieux refaire vivre l'époque. Et il fait pendant à celui de David Verdier, Sherlock Holmes et les mystères du Berry. Une bien jolie initiative pour deux nouveaux textes holmésiens. Enfin, si vous ne savez pas quoi voir au cinéma, allez donc zioter le nouveau film de Tarek Salé, La conspiration du Caire, avec Fares Fares. Le duo nous avait déjà emballé avec Le Caire Confidential. Il récidive, comme tout bon malfaiteur que ces deux gens-là sont. Voilà, Calibre 58, c'est fini pour cette fois-ci. La semaine prochaine, c'est Entre les pages. N'oubliez pas nos amis imaginaires le mardi soir à 21h. On se quitte en musique avec Ned Young, Again and Again. Cette fois-ci, c'est Harvest, comme The Red Harvest de Hammett. Tout est lié. Bye bye.
Well, I got this new song that I just wrote last night. And I can't remember all the words, so, and I forgot to bring out my piece of paper with Mona. So, you know where that is? Okay. I thought I was talking to you, didn't you? I was talking to you. I was just looking at you. It was fun, though. No smoking. Hi, guys. It's kind of, you know. That's a new song. It's going to be the title song of my album when it comes out. It should be April 15th in the United States. Probably a little sooner. There it is, right there. Ah, a lot of words, folks. You can never remember that. It's called Harvest. That's what the album will be called. Did I see you down in a young girl's town with your mother so much in pain? I was almost there at the top of the stairs with her crying in the rain. Did she wake you up to tell you that it was only a change? Plan. Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see you walking with the boys, though it was not hand in hand? And was some black face in a lonely place when you could understand? Did she wake you up to tell you that it was only a change of plans? Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Dream up, only a change of plans.
www.radio-g.fr